Très inégal selon les niveaux de soutien public pendant la pandémie de coronavirus. La prévision pour la zone euro, elle, est revue en nette hausse. Au total, se félicite l'OCDE, le PIB mondial est aujourd'hui supérieur à son niveau d'avant la pandémie de Covid. Enfin, football, Lionel Messi touché au genou gauche. Le Paris Saint-Germain annonce que son attaquant vedette argentin ne pourra pas jouer demain mercredi à Metz pour le compte de la 7e journée de Ligue 1. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir écouté. Je vous retrouve à 19h pour d'autres informations dans les médias. Il est pratiquement 18h10 ici à Paris.
Radio G. 101.5 FM. C'est Topette, la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Benoît.
50 minutes pour donner la parole aux agitations locales et culturelles. La quotidienne de Radio G, en direct du lundi au jeudi, 18h10, 19h, 101.5 FM ou podcast. Vous connaissez la musique. Justement, en parlant de musique, ce soir, ce sera mélodique. Le centre culturel Jean Carmet démarre sa saison avec deux artistes en juin, le groupe Chris Cornac, ce jeudi 23 septembre, et fait d'ailleurs gagner deux places aux auditeurs de la radio. Rien de plus simple, envoyez-nous un petit message privé sur les réseaux sociaux ou via le site avec votre nom et numéro de téléphone. Les gagnants seront tout simplement tirés au sort. Dépêchez-vous, c'est quand même dans deux jours. Engênante Opéra vous propose aussi de gagner des places pour savourer la voix de Wahed Bouassoun. Rendez-vous sur Insta, c'est le même procédé. Vendredi, c'est Théophile qui se produira et il est avec nous ce soir, accompagné de Thierry Dupont. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Donc Thierry Dupont, PDG international investisseur.
Ouais, c'est exactement ça.
Dans le milieu culturel.
On peut dire responsable d'une petite médiathèque publique qui ma foi fait plein de choses et fonctionne avec les habitants.
Et on en parlera un peu plus tard ainsi qu'avec Théophile. Vendredi 1er octobre à 21h, on entendra... Alors pardon, je vais un peu trop vite, puisqu'on parle de musique, mais il y a aussi le théâtre avec Marie Gauthier qui a mis en scène Mouton Noir. Alors Mouton Noir, c'est une pièce qui aborde le harcèlement à l'école et pas que, je crois.
Bonsoir. Non, ça parle aussi de l'adolescence plus généralement et c'est une pièce de théâtre avec plein d'émotions.
Et du coup, c'est le vendredi 1er octobre à 21h. Merci Maud pour avoir amené ces fabuleux invités dans ce studio. Donc Maud, bonsoir.
Bonsoir, ben merci à vous, surtout de l'avis.
Voilà, Maud, assistante programmation au Centre culturel Jean Carmet, je ne me trompe pas.
C'est ça.
C'est tout à fait ça. On t'entendra également nous parler de Chris Cornac, du coup. On entendra aussi Émilie qui va nous croquer un peu de philo en fin d'émission. Le thème est d'actualité puisqu'il s'agit de la rentrée. Waldo, lui, est bien content d'être à la radio car personne ne le voit et ceux qui sont avec nous dans le studio ont bien de la chance de découvrir ce visage d'un street artiste angevin. Vas-y, c'est le micro jaune et vert, Waldo.
Salut Pierre-Benoît. Salut tout le monde.
C'est la première fois qu'on entend ta voix à la radio.
Oui, tout à fait.
Et ben on l'entendra un peu plus en détail tout à l'heure pour nous raconter une histoire passionnante car tu agis dans l'ombre. Et sans le découvrir, en deuxième partie de programme. Pour réagir à cette émission en direct, c'est sur mon Insta ou Twitter à pb@pbradioG.
18h10, 19h, Topette avec Pierre Benoît.
Et c'est mardi, on a déjà envie d'un petit restaurant ce soir, on sait pas où aller sur Angers. Eh bien c'est simple, on écoute Sarah.
Salut, c'est Sarah du compte Instagram Mangez-moi. Aujourd'hui, je vous présente un nouvel épisode de ma chronique, le OVO. OVO pour « On va où ?» Cette fameuse question qui revient systématiquement à chaque fois qu'une envie de convivialité et de bon temps est évoquée. Je vous partage mes bonnes adresses angevines et je vous donne les cartes pour adapter votre choix de lieu en fonction de l'occasion. Alors cette semaine, on va où ? Aujourd'hui, je vous emmène dans le nouveau restaurant Gribiche, ouvert par Emmanuel Mouly et Alex Tessier, anciennement une île située à côté de la gare. On m'avait dit, tu verras, c'est hyper bon. On m'avait dit, il est très connu sur Angers. On m'avait dit, sa cuisine est aussi raffinée que sa bouche est grande. En général, avec ce genre d'entrée en matière, je suis toujours, au final, déçue. Eh bien, pas cette fois. J'ai même envie de vous dire, enfin ! Enfin, un restaurant à Angers où on peut mêler ambiance conviviale et bonne bouffe. L'essence même du bistrot français. Gribiche, avec un nom comme ça, il fallait coller au concept. La salle est grande, joliment décorée et aménagée pour apporter la convivialité nécessaire à un bistrot sans pour autant négliger l'intimité de chaque table. J'ai trouvé la carte des vins beaucoup trop longue pour une non-initiée comme moi et j'ai donc lâché la carte au bout de la seconde page. Mais ça n'a été en aucun cas un souci. Le serveur a parfaitement su me conseiller et m'orienter sur le vin qui irait sur tous les plats, tout en tenant compte de mes envies. Chez Gribiche, pas de menu. Une ardoise à la carte avec 4 entrées, 4 plats et 3 desserts. Et ça cartonne. Le pâté en croûte était ultra gourmand et savoureux. Le croustillant de pied de cochon et sa sauce Gribiche parfaitement réalisée. Note à moi-même, personnellement je n'avais jamais goûté le pied de cochon et je pense ne pas aimer la texture de ce produit. Blonde un jour, blonde toujours. Donc des entrées réalisées à la perfection avec des saveurs et textures maîtrisées. En plat, la joue de cochon était délicieusement fondante et sublimée par une délectable garniture composée de purée de pommes de terre et de champignons sautés. Le contre-filet de bœuf et son jus de veau au citron vert étaient un régal. Une association audacieuse qui booste l'ensemble du plat et qui met en valeur une viande fondante. Ici, il vous faudra du pain, excellent d'ailleurs, pour saucer votre assiette. Et c'est bien là toute la beauté de cette cuisine, généreuse, gourmande et régressive. On avait déjà l'estomac bien plein et on a hésité à prendre des desserts. Mais je voulais tout goûter. Et une fois de plus, j'ai bien fait. Le Saint-Honoré au café. Perfection. Et c'est la reine des choux qui parle. Pâte à choux top. Craquelin parfait. Crémeux arabica délicieux. Glace et crème vanille tellement parfumée. Le plus qui apporte sa touche croquante et originale, la tuile aux deux sésames. Une superbe réussite. Le second dessert, abricot, basilic et cream cheese. Deuxième perfect, messieurs, dames. Très peu sucré, gourmand, un pesto basilic qui relève à merveille l'acidité de l'abricot. Le cream cheese apporte toute la rondeur et la gourmandise à l'assiette et le sablé donne le croquant et le côté beurré au dessert. Ultra gourmand, sans être trop lourd ou trop riche. La chartreuse nous a été gentiment offerte et s'accordait à merveille sur le dessert abricot. Les prix sont un petit peu plus élevés que dans un restaurant classique, mais c'est totalement justifié, tant par la qualité que par la quantité de chaque assiette. L'endroit parfait pour un moment entre amis, pour un événement à célébrer, pour un dîner à deux. Si vous aimez la vraie bonne cuisine et que l'ambiance guindée vous ennuie, c'est chez Gribiche qu'il faut aller. Alex et Emmanuel, bravo. Et je vous préviens, vous risquez de me revoir. Gribiche, c'est au 9 rue Max Richard à Angers, du lundi au vendredi, à tous les services, sauf le mercredi soir. Mes chroniques, c'est sur le compte Instagram Mangez-moi.
Eh bien voilà, tout est dit. Merci beaucoup, Sarah, pour cette petite chronique. Ça vous a peut-être donné envie d'aller manger, mes chers invités.
Bien sûr.
Non, ça va.
Non, Waldo, ça va? T'as pas encore faim? Thierry,
si vous nous invitez,
bien sûr. Oui, c'est Anthony qui va régaler ce soir. Allez, Théophile est avec nous justement ce soir. Je lance le titre. Tac. Tu reconnais? Ah oui, pardon, j'ai coupé le retour studio.
Harmonie de bac à sable, s'agrippant au rebord de
l'espoir facile. C'est bon? Tu l'as? Je prendrai même pas la peine de te présenter, puisque ton talent est déjà connu, bien connu sur le bassin angevin et même. Exactement. Et même au-delà. Tu connais pas Waldo? Eh bien, Théophile, si tu devais te présenter en quelques mots, comment dirais-tu?
Écoute, Waldo, je m'appelle Théophile et je fais de la musique, je fais de la pop française. Voilà, donc avec des instruments plutôt inspirés de musique contemporaine qu'on entend un peu à la radio, tout ça. Je fais mes prods tout seul, je fais toute la compo. Et à la voix, plutôt inspiration, chanson française, ça va de Bachoum, Tiefen, mais ça va aussi sur beaucoup de rap. J'écoute beaucoup de rap, du coup, voilà, il y a un peu un mélange de tout ça.
Et dans le programme de Jean Carmet, on t'annonce comme un tatou d'un grand monsieur. C'est toi, Maud, qui a écrit ces lignes?
Alors c'est, disons que je me suis inspirée des textes qu'on m'a donnés sur Théophile.
Ouais. Puis moi si je peux rajouter quelque chose en fait, Théophile c'est quelqu'un qui en très peu de temps, t'es assez jeune, hein, je sais pas précisément quel âge tu as, mais t'es assez jeune et tu as réussi, ce qui est assez rare quoi, très vite, de faire des premières parties de gens très très connus un peu partout en France. Moi je vais pas les citer, mais tu les citerais mieux que moi et puis tu t'en oublieras pas du coup, juste pour montrer aux gens, parce que c'est quand même révélateur. Je sais que t'es modeste, mais vas-y.
Oui, j'ai eu la chance, oui, effectivement, de faire des premières parties comme Oxmo Puccino, Vanessa Paradis, IBI,
qui est absolument génial.
Dionysos.
Ah ouais.
Voilà. Mais ouais, ouais.
Là, Dionysos, c'était il y a quelques jours, je crois.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Ouais.
Très bien, bah merci Thierry. Alors Thierry, l'homme qui vient de prendre la parole pour présenter Théophile, tu disais comment tout à l'heure, investisseur.
Je suis responsable d'une médiathèque. Voilà, un humble serviteur de la littérature, de la musique et du cinéma et donc, dans un service public.
C'est la médiathèque de Murerie.
Jean Carmet, oui. Jean Carmet. Qui est vraiment au bord d'Angers. Une petite commune de 6000 habitants où il y a effectivement, on a la chance d'être au sein d'un centre culturel où il y a plein de concerts. Et en fait, si je peux justement rebondir là-dessus, ouais, nous on a créé il y a maintenant une dizaine d'années quoi, ce qu'on appelle nous un fonds de CD, un fonds de CD de musiciens angevins. On a commencé super modeste, hein, 15, 20, 30 CD, et aujourd'hui on en a un peu plus de 500 CD. Moi je bosse notamment avec le Chabada, cet été ils sont venus m'apporter deux gros cartons, j'étais super ému quoi, deux gros cartons de CD, puisqu'en fait avec les studios de répétition de la Serclair, ils ont récupéré des tas de CD d'artistes en juin, mais qui n'existent même plus quoi. Et les groupes et les CD, qu'on peut les trouver nulle part. Donc voilà, donc aujourd'hui on a 500 CD, ça va continuer. Et le but du jeu, c'est évidemment pas de garder ces CD pour les habitants de la commune, quoi, Irimurois et Irimuroises. Bah non, c'est de les prêter, comme je disais à Théophile juste avant l'émission, c'est de les prêter à toutes les bibliothèques du département. Il y en a près de 280 bibliothèques. Voilà, par exemple, voilà, ici me demandent les deux EP de Théophile, et ben ouais, je pourrais leur prêter. Hein. Ça m'emmerdera un peu, mais je pourrais leur prêter. Je plaisante. Voilà. S'ils veulent les Lojo, les Titi Robin, enfin voilà, tout quoi, Bonbon Vaudou, etc. Nous, on les a quoi. Et,
une seule condition, ouais. C'est d'être angevin.
Ouais, Maine-et-Loire. Ouais, ouais. C'est vraiment bibliothèque et le partenariat, voilà, pour faire court, parce que je suis très bavard sinon. Ouais. Pour faire court, on a un partenariat, on est labellisé par le conseil départemental, donc par le Bibliopole, le service de lecture publique, qui finance en partie, un petit peu, qui nous aide. Et donc, en plus de ce fonds de CD, nous, on fait depuis pareil, 10 ans, 15 ans, des petits concerts acoustiques et on a fait venir plein de gens, les Lojo plusieurs fois, Titi Robin, plein de gens.
Ouais. Justement, Maud, tu pourras peut-être me répondre à cette question. Est-ce que c'est pour ça que vendredi Théophile vient faire un concert à Jean Carmet? Il y a eu un micmac entre la salle de le centre culturel, la médiathèque, et du coup il y a un concert. Le concert, il est dans la salle ou il est dans la médiathèque?
Alors le concert, il est dans la salle, il est organisé par la médiathèque, il est financé par le Bibliopôle, donc le réseau de lecture, et effectivement il a lieu dans la salle. Ben, c'était d'abord pour, par rapport aux conditions sanitaires qu'on avait pensé les choses comme ça. Et puis voilà, en ouais, fait, on s'est dit que c'était sympa de jauge, aussi de faire des partenariats comme ça.
D'accord. Alors Théophile, t'as accepté directement ?
Ah bah oui, bien sûr. Ça fait très très longtemps qu'on en discute. Du coup, j'ai très hâte que ça se passe.
Ouais. Ça fait quand même. Oui, c'est ça. Il a été reporté, je sais pas, deux fois ou trois fois. Quoi. Ouais. Voilà, ça aurait dû se faire il y a deux ans, quoi.
Ok. Donc là, on va peut-être remettre les choses dans l'ordre. Du coup, c'est vendredi 24 septembre à 21h à la salle Jean Carmet. Organisé par la médiathèque et c'est gratuit.
Voilà, c'est gratuit comme toutes les animations qui se déroulent dans les médiathèques et bibliothèques, quoi. Toute l'action culturelle, c'est la grande différence avec les salles de spectacle. On a cette chance de pouvoir offrir gratuitement et en fait, bah, c'est génial, quoi. Ça fait que les gens peuvent découvrir, quoi. Hein, découvrir pour aller ensuite après au concert.
Le concert qui est juste à côté. Théophile, est-ce que tu vas proposer quelque chose de particulier? C'est un peu une rentrée aussi pour toi?
Ah bah c'est complètement une rentrée, oui. Enfin, j'ai commencé à reprendre les concerts, mais du coup là ça va être de l'inédit, ça va être beaucoup de chansons que personne n'a entendues, à part sur les trois derniers concerts des semaines dernières. Mais sinon, ouais, c'est beaucoup d'inédits, donc ça va être très chouette. Je suis très content de pouvoir jouer longtemps.
Ouais, oui, ça fait du bien après tant d'absence, de rétention. Là, j'ai un titre que je m'apprête à lancer. Illusion, il en fait partie de ces nouveaux titres?
Exactement, ouais.
D'accord. Tu peux peut-être en dire quelques mots. Comment il est venu à toi ce titre?
Ça fait assez longtemps que je l'ai écrit. Illusion, en fait, on peut croire en premier lieu que ça parle d'une relation amoureuse, sur l'illusion, sur l'honnêteté, sur un peu le fait de se cacher derrière un masque parfois. J'avoue que le sujet revient souvent dans mes textes. Mais au final, c'est plutôt une chanson que j'ai écrite pour un ami, mais avec une voix féminine aussi dessus, comme ça.
D'accord.
Chacun peut voir ce qu'il veut dedans aussi.
Et comme d'habitude, c'est toi qui as fait les instrus, qui a écrit les paroles, qui a fait les
arrangements. Et sur celle-ci, j'ai été aidé aux arrangements par Nino Vella. Voilà.
Vas-y Thierry.
Ouais, je voulais juste rajouter que ce concert, comme le précédent avec Grace Cornac, c'est en configuration cabaret. Donc il y aura une partie assise, une partie debout si les gens veulent, s'ils veulent bouger, danser. Et il y a un bar ouvert aussi, géré par une association, la CME, avec des très très bonnes bières qu'on a goûtées aujourd'hui pour être sûr, et qu'on a trouvées délicieuses. Non, et voilà, c'est aussi ambiance sympa. Et alors, dernière chose, ce qui est génial avec ces petits concerts acoustiques, ces petites rencontres qu'on fait nous à la médiathèque, c'est qu'il y a une proximité justement avec l'artiste, et que c'est bien plus facile et pour le public et pour l'artiste de les faire se rencontrer à la fin. Donc c'est vachement sympa, mais comme on fait dans les bords de scène avec le théâtre, comme on fait partout quoi maintenant, mais voilà, avec les chanteurs c'est bien. Et j'imagine que pour toi c'est intéressant aussi, parce que du coup t'as pas le même contact que sur une grosse scène avec 2000 personnes quoi.
Oui, ça n'a rien à voir. Oui.
Voilà.
Et bien l'événement a été très bien vendu, on n'a plus qu'à avoir un petit avant-goût avec ce titre Illusion de Théophile.
J'ai changé mon visage, pourtant j'appréhende toujours le fait d'un mauvais présage. Il faut que tu saches, pendant ce temps, on a chacun tracé nos routes. J'ai cimenté mon âme de cran et courbé les voûtes. Ce n'est qu'une illusion, retire les mains des yeux. Ce n'est qu'une illusion. J'ai besoin que tu me vois tel que je suis aujourd'hui. En apesanteur, j'aimerais croire qu'on s'aimait tant. Je sais mon chemin vers d'autres lignes que j'ai découvert en marchant. Tu sais, cette passion qui nous lie peut nous ramener bien comme avant à nos étoiles que nous aimions. Un simple principe de transition. Ce n'est qu'une illusion. Retire les mains des. Ce n'est qu'une illusion. Ce n'est que moi derrière. Tu n'as pas à t'en faire. Je suis toujours honnête. On a vécu plein de choses ensemble. On a vaincu plein de choses ensemble. Nous étions perdus ensemble. On s'est soutenus. On a joué. À qui pourra s'évader le premier. On a joué.
Théophile sur Radio G, du coup, qui est avec nous ce soir. Avant de passer à Grace Cornac, qui est l'autre date de la programmation de Jean Carmet, n'est-ce pas, Maud? T'avais rejoint l'équipe Espoir du Chabada en 2019. Qu'est-ce que ça t'a apporté par rapport à ton parcours, où tu en es aujourd'hui? Comment t'as perçu cette évolution?
Et déjà, c'est le Chabada, c'est une institution sur Angers, donc le fait de pouvoir rentrer dedans, c'était super chouette pour moi. Et en fait, c'est un accompagnement qui est en 360. Ils accompagnent autant sur comment développer un projet, trouver des partenaires, financer des clips, par exemple, financer des sorties de CD, faire jouer au Chabada, faire connaître, jouer dans des lieux comme le Mama, les Inouïs, enfin des trucs comme ça. Et du coup, c'est un peu un accompagnement qui est complet. On peut venir là-bas, on dit voilà, j'aimerais faire ça, comment on fait, et ils aident.
Et du coup, tu estimes qu'aujourd'hui, ça t'a vraiment aidé par rapport à là où tu en étais avant de rejoindre l'équipe?
Bien sûr, oui, bien sûr.
Vas-y Thierry.
Ouais, moi je voulais rajouter, c'est vraiment intéressant que vous parliez de tout ça, parce que le Chabada aujourd'hui a déjà désormais une longue existence, et c'est vraiment pas un hasard si aujourd'hui en Anjou il y a autant de très très bons groupes de musique, de très grands interprètes, parce que beaucoup sont passés notamment par le Chabada et par ses accompagnements. Bah, le résultat est là, et je suis sûr même, c'est une des seules, si ce n'est la seule SMAC en France, donc scène de musique actuelle en France, à proposer ce type d'accompagnement. Et en tout cas, c'est le plus complet.
Oui.
Ouais, c'est ce qu'ils disent.
Il y a un débat qui s'ouvre. Tiens, Waldo, petite question.
Bon, en tout cas, on en joue, c'est vraiment une terre d'artiste. Et...
Ouais. Tu connaissais pas Théophile de nom, en tout cas. La musique, tu la connaissais peut-être pas non plus, puisqu'elle est sortie il y a pas longtemps.
Non.
C'est en novembre, hein, c'est ça, la sortie de l'EP?
Ouais, c'est ça.
C'est en novembre, donc normal. T'en as pensé quoi? T'aimes bien?
Bah ouais, ça a l'air cool quoi.
Ouais,
même les niveaux de la zik, le petit fond sonore, et puis les, ouais, au niveau de la voix, ça me plaît quoi. C'est une prune.
Tu peux pas dire autre chose de toute façon, puisque Théophile est là. Et
oui, ça. Et puis ouais, il est costaud en plus.
Donc, voilà, c'est ça. Ouais.
Chacun ses goûts.
Allez, on va passer à. On parlait d'artistes, il y en a d'autres du coup. Gris Cornac, c'est un duo. Angevin aussi, je me tourne vers toi, Maud, oui, parce que c'est toi qui vas les présenter. Donc ça, c'est une date, on a pris un petit peu d'avance dans le programme. C'est une date qui est jeudi soir. Et d'ailleurs, tu offres des places, deux places,
oui,
pour les auditeurs de Radio-G.
Deux places à gagner pour les chanceux qui seront sélectionnés. Et Gris Cornac, bah, c'est un groupe local aussi, un groupe angevin. Ils sont de Rochefort et on les suit depuis leur début au Centre Jean Carmet. Ils sont un peu à la maison en fait chez nous, parce que ils sont venus beaucoup de fois répéter, créer, faire des vidéos. Voilà, et donc on a suivi l'évolution de ce groupe, et qui gagne en maturité, et qui est vraiment maintenant
un groupe à
découvrir,
quoi.
Voilà, ils avaient un premier projet plus intimiste, et là donc leur nouveau projet s'appelle Tout baigne. Donc ils ont sorti un album juste avant le premier confinement, donc c'était pas forcément approprié, mais enfin aujourd'hui Tout baigne, on va pouvoir les recevoir. Ouais. C'est pareil, c'est une date qui a été programmée, reprogrammée, donc on a super hâte. Et là, ce qu'ils proposent, c'est plus lumineux, c'est assez pop aussi, y a un peu d'électro, y a des moments un peu plus trans, voilà, et avec des textes, les textes d'Aurélie Breton, donc qui est...
C'est de poésie, c'est des,
voilà,
poèmes, hein,
c'est... Ouais, c'est de la poésie, franchement, c'est une poète, hein, moi je trouve, elle écrit super bien, voilà, quoi dire de plus
Tu vois, vas-y, ouais. Théophile, ouais, tu connais.
Ouais, faut aller les voir, moi je les ai vus, c'est vraiment, vraiment génial.
D'accord, donc tu conseilles jeudi 23 Gris Cornac, et vendredi on va te voir.
Voilà, c'est ça.
Ok, ça marche, bah, beau programme. Alors Théophile, je connaissais Gris Cornac, j'ai découvert ça la semaine dernière, pour rien vous cacher. Au départ j'étais un petit peu surpris, ça tranche avec ce qu'on peut entendre habituellement, même si c'est underground. Comment tu décrirais le style, on qualifie ça d'hybride, mais c'est presque transgenre musical aussi, comment...
Bah ouais, complètement, enfin... Il y a des influences pop, électro, des fois ça part un peu sur un peu la musique du monde, et puis c'est vraiment le texte est central, quoi. C'est le service, la musique de Quentin au service du texte d'Aurélie, même si quand on les entend, quand on leur pose la question, ils font les choses un peu à l'inverse aussi. Quentin a ses univers sonores comme ça, très particuliers, qui lui sont propres, et Aurélie pose ses textes dessus. Donc c'est vraiment un duo qui se complète, qui travaille ensemble depuis longtemps. Et
alors ouais, tu cites leur prénom, donc c'est Aurélie Breton pour l'artiste qui chante, et voilà, Quentin Chevrier pour l'artiste qui compose les morceaux. Ils sont pas là, mais donc je te pose la question à toi. Tu connais un petit peu leur parcours avant de former ce duo?
Je saurais pas dire. Aurélie, je sais qu'elle joue dans d'autres groupes comme Royal Copec, ils avaient le groupe aussi Swing Sofa, voilà, et puis bah, petit à petit ils
baignaient du coup justement,
voilà,
dans
petit bonhomme de chemin, et ils se sont professionnalisés petit à petit, et pour ne vivre que de ça, donc
bon, Théophile a approuvé ma blague, donc je vais dire que j'espère que tout baignera pour eux jeudi. Oui. Voilà. Et donc pour gagner des places, je le répète, donc c'est jeudi 23 septembre, c'est à 20h au Centre culturel Jean Carmet. Donc pour gagner des places, c'est simple, il suffit d'envoyer un message privé sur les réseaux sociaux de la radio ou via le site internet, de laisser son numéro de portable, enfin son numéro de fixe aussi, si y en a peut-être encore qui ont des fixes chez eux, et de laisser son nom, et on tirera au sort tout simplement. Moi je vous propose d'écouter du coup, c'est Décidément de Gris Cornac.
Dans ma rue. silence majestueux des flocons candides qui ricochent sur mon lac brumeux. Amour chien dent, en quel mois fleuris-tu? Décidément, amour chien dent, en quel mois fleuris-tu?
Sur Radio G 101.5 FM, donc c'est jeudi 23 septembre, donc dans deux jours, au Centre Culturel Jean Carmet, et c'est à gagner sur Radio G en plus. Allez-y, foncez, ça va être trop bien.
18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît.
Passons au registre très théâtral maintenant, avec un mouton noir. Puisque nous avons également dans le studio Marie Gauthier. Ça va, Marie ?
Oui, ça va.
Oui, tu passes un bon moment ?
Très bien.
Tu découvres des choses sur les voitures en off, les plaques d'immatriculation, comment customiser...
Tout à fait, et aussi sur la musique, ça m'intéresse beaucoup.
Oui, tu j'imagine que tu connaissais les Théophile et Chris
Cornac.
Non,
pas du tout, je découvre.
C'est vrai ? Chose.
Oui.
Ah,
ouais.
Bah tiens.
Tu te fais voir, c'est pas si connu. Hein.
Non, c'est peut-être que je manque de culture.
Oh, tu écoutes quoi habituellement ?
Pas beaucoup de choses. Je vais beaucoup voir de théâtre.
Ah, bah ça tombe bien puisque tu es donc metteur en scène et tu as récemment mis en scène justement Mouton Noir d'Alex Lorette, un Belge qui a reçu un prix, j'ai plus le prix en tête.
Prix de... Prix des metteurs en scène, c'est-à-dire que c'est les metteurs en scène qui ont donné un prix, comme quoi sa pièce avait toutes les qualités pour être mise en scène. Et nous, nous sommes ravis parce que il a été mis en scène qu'une seule fois en Belgique et on est les premières en France à présenter ce spectacle. Et moi, j'adore ce texte et je suis ravie d'être une passeuse entre cet auteur magnifique et le public.
Et ça se passe du coup le vendredi 1er octobre à 21h au Centre Jean Carmet, Centre Culturel Jean Carmet. Décidément une belle programmation, en mode bravo.
Bah oui, je suis pas entièrement responsable de ce qui se passe. D'ailleurs, je ne suis pas responsable. Mais oui, c'est une belle programmation parce que bah, y a plein de reports et puis il y a aussi tous les nouveaux projets. Donc voilà.
Alors bah, merci à l'équipe en tout cas. Marie Mouton Noir et Truie Albinos, c'est ça?
Pardon, c'est quoi la question? Non, alors déjà, je voulais dire que on a commencé notre création de Mouton Noir au Centre Culturel Jean Carmet. C'était notre première semaine de répétition, voilà. Donc la boucle est bouclée, ça va être notre première en tout public puisque nous avons pu faire des scolaires depuis le 11 février, mais nous n'avons pas encore rencontré le tout public. Donc pour nous, ça va être une grande première et donc on sera ravis que le public vienne nombreux. Donc Mouton Noir, oui, en effet, il y a pas beaucoup de moutons dans la pièce, mais c'est vrai qu'il y a un cochon qui s'appelle Albi dans ce spectacle. En dehors de l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Camille et qui est victime de harcèlement scolaire et qui se confie à une amie imaginaire qui s'appelle Mila, on découvre cette jeune fille qui cherche sa place au milieu de l'institution scolaire, au milieu de sa famille et au milieu de ses compagnons pas très sympathiques. Et on a en parallèle l'histoire d'un cochon qui est élevé dans un élevage de cochons et qui va finir par être tué. Et donc on a un peu deux mises à mort parallèles qui ne sont pas pour les mêmes raisons, mais qui sont une réflexion sur quelle est notre place et qu'est-ce qu'on fait pour laisser la place aux autres.
Alors c'est, oui, c'est un sujet quand même assez grave. Par rapport à la mise en scène, comment ça se passe? Parce que quand j'ai lu le synopsis, je ne sais pas si on dit ça aussi pour les pièces de théâtre, la truie, comment ça se matérialise?
C'est une truie qui parle, normalement. Donc c'est une truie qui est sur ses deux jambes, qui se prend pour une star. Il n'y a aucun problème de compréhension. Toutes les scènes sont annoncées avec le nom des personnages parce qu'ils sont quatre comédiens formidables issus des conservatoires d'Angers et de Nantes, de jeunes comédiens qui ont entre 20 et 25 ans, qui ont une pêche incroyable et un talent formidable, qui défendent cette pièce et ils jouent tous les rôles. Pour dire aussi que les places que l'on occupe dans une société ne sont pas éternelles et qu'on peut changer sa place et son point de vue sur les choses. Donc là, ils jouent tout. Ils jouent la mère, ils jouent le cochon, ils jouent les cochons, parce qu'il y a Albi, mais Albi, elle vit au milieu de d'autres cochons. Ils jouent Camille, ils jouent Mila, ils jouent la mère, ils jouent les profs, enfin, ils jouent tout. Et donc, c'est une grande machine à jouer, mais tout à fait compréhensible pour tous les publics à partir de 12 ans.
Oui, parce qu'on ne l'a pas précisé, mais du coup, ça s'adresse aux adolescents.
Non, ça s'adresse à tout le monde, je pense, parce que le harcèlement scolaire n'est pas qu'un problème d'adolescence, c'est un problème de société dans lequel il y a plein de problèmes qui nous concernent. Et le harcèlement, il est au niveau des institutions scolaires, mais il y a aussi beaucoup de harcèlement dans le milieu professionnel. Et je pense qu'on peut tous s'interroger sur la place que l'on occupe.
Et l'avantage, du coup, de cette pièce, c'est quand même qu'elle permet, ce que je voulais dire, aux adolescents de comprendre. C'est pas un langage qui leur est exclu, en fait.
Ah non, ils comprennent tout de suite. Je pense que j'ai fait une mise en scène assez claire, mais le texte aussi est très très clair et il s'y retrouve complètement dans cette pièce. On a eu déjà beaucoup d'échanges avec les jeunes spectateurs. Ils disent que c'est exactement ça, même que la vie elle est pire que ça. Alors là, je vois pas ce qui peut être pire que ça, mais bon, eux ils trouvent qu'il y a bien pire. Le langage, moi je le trouvais un peu cru. Eux, ils trouvent que là aussi il y a bien pire. Donc oui, évidemment, ça leur parle, mais je pense qu'il n'y a pas de leçon dans cette pièce. On n'a pas de solution au harcèlement scolaire. Nous, on est juste un petit passeur, comme je le disais tout à l'heure, reflet, miroir d'une petite société et dans lequel on espère que ça va libérer la parole entre jeunes et adultes, que ce soit l'institution scolaire ou que ce soit avec les parents qui parfois sont très très loin de savoir ce qui se passe par les réseaux sociaux et qui se passe dans la réalité des jeunes dans le milieu scolaire.
Thierry, tu voulais réagir?
Ouais, c'était juste surenchérir, quoi. Moi, c'est mon témoignage de passeur aussi, quoi. Dans une médiathèque, j'entends beaucoup d'enfants, de parents, bien sûr, parler de tout ça. C'est essentiel et central aujourd'hui. Donc, plus on fera passer ce type de message par le biais d'une pièce, mieux ce sera, parce que c'est un vrai sujet important. Et t'as complètement raison, Marie. Enfin, les parents sont à 10 000 km de ça la plupart du temps. Enfin, il y a un décalage entre ce qui se passe et ce que les parents ressentent ou savent ou connaissent.
C'est un enfant sur 10 qui est victime de harcèlement scolaire, c'est-à-dire 3 enfants par classe.
Et justement, Marie, j'ai lu que tu interviens aussi auprès du lycée, en lycée, pour faire des spectacles avec les jeunes. Tu accompagnes aussi pour l'option théâtrale, qui est facultative, mais quand on l'apprend, du coup, il faut quand même bien l'amener. Et tu expliquais que tu as voulu proposer cette scène-là dans les lycées et les profs ont un peu...
En fait, j'ai découvert cette pièce en cherchant une pièce pour les adolescents. Ça fait très longtemps que je travaille avec les 15-18 ans. C'est un âge que j'adore. Enfin, j'adore travailler avec eux. J'adore monter des spectacles avec eux. Ça fait longtemps que je le fais. Et c'est vrai, quand j'ai trouvé cette pièce, j'ai trouvé une pépite. J'étais trop heureuse. Et après discussion avec les enseignantes, en fait, je n'avais pas compris à ce moment-là, parce que souvent, moi, je découvre aussi des fois la vie par l'intermédiaire des pièces, en lisant, en me renseignant, en regardant des films, que le sujet était beaucoup plus étendu et beaucoup plus grave que je ne pensais, et que de jouer avec des adolescents sur un thème qui leur est si proche, donc avec pas tellement de distanciation qu'il y a dans la pièce que je présente, peu de distance entre les élèves et cette thématique, donc de jouer en gros leur propre rôle, ça pouvait être difficile et trop sensible. Donc aujourd'hui ils vont venir voir cette pièce, mais c'est quand même plus simple quand il y a la distance de la scène, et donc on a monté d'autres choses avec, mais c'est vrai que c'est un sujet vraiment sensible, et que même là on est accompagné par souvent par ACVS 49 qui fait de la prévention harcèlement scolaire, parce que nous on est des artistes, on essaye de parler de ça, mais on n'est pas thérapeute. Merci. ni psychologue, ni donc on a besoin d'être accompagné, parce que c'est pas toujours simple de savoir réagir et de trouver aussi les numéros où les familles peuvent appeler, où les jeunes peuvent appeler, parce que je pense qu'ils sont assez isolés et démunis par rapport à ce problème.
Merci Marie de proposer des choses pour, par rapport à ces problématiques-là. Le spectacle, du coup, Maud, est-ce que tu peux rappeler les dates, si tu les as
en tête ? Oui, c'est le vendredi 1er octobre à 21h.
Très bien, voilà. Et c'est à la salle...
Au centre culturel Jean Carmet.
Très bien, ouais. Bah, merci beaucoup en tout cas Marie, puis j'espère que...
Merci de nous avoir invités.
Merci.
Topette, avec Pierre Benoît.
On va passer maintenant à notre street artiste local, Waldo. Alors, prends pas le micro, on va d'abord écouter ce que tu proposes.
Mais où sommes-nous ?
Bonjour, je suis Waldo, un street artiste vivant à Angers. Sans aucune autorisation, je m'amuse à poser des mosaïques sur les murs de la ville. Lors d'une promenade dans le centre, il vous est peut-être arrivé de tomber nez à nez sur une de mes créations. Un phare, un panda ou un pélican. Chacune a son histoire. Laissez-moi donc vous la conter. Suivez-moi. Téléportons-nous sur la place Saint-Éloi, là où se trouve un énorme visage de bronze. Vous apercevez la tour Saint-Aubin plus loin. Allez-y et contournez-la vers la rue des Lys. Et vous verrez alors, collé sur le mur, un phare. Oui! Un phare tricolore qui émet des faisceaux de couleurs dans toutes les directions. Il est constitué d'une multitude de petits carreaux de mosaïque. Tiens, un phare, mais que fait-il ici ? Laissez-moi vous conter l'histoire de ce phare. Je menais ma vie au jour le jour quand l'image du phare y est apparue, et cela à plusieurs reprises, en très peu de temps. Voyant cela, je m'interroge. Vais-je en faire une mosaïque ? C'est l'été. Et je m'en vais joyeusement faire trempette au lac de Maine. Là, quelque chose sur l'herbe attire mon œil. C'est une boîte de Smarties sur laquelle est dessiné un phare. Je m'amuse de cette nouvelle synchronicité et décide alors de me mettre en création. Ainsi, je me mets à l'ouvrage dans mon atelier. Ah, bref aparté. Savez-vous qu'il peut être compliqué de faire des choses simples ? Oui, je peux passer un temps fou sur quelques tesselles de pixels. Ah, la vie d'artiste. Bref, la création prend forme. Les carreaux de mosaïque sont assemblés et forment maintenant un puzzle représentant un phare. Jamais ce phare n'a existé sur Terre. C'est la magie de l'art. Ceci accompli, je me gratte la tête. Oui, il me faut trouver un mur en ville qui l'accueillera. Je fouille dans mon répertoire de spots, propice à mon vice, et tombe sur la tour Saint-Aubin. Il y a un mur libre juste à côté. C'est parfait. Oui, car le phare est aussi une tour. De plus, la tour Saint-Aubin est un lieu d'exposition artistique. L'endroit idéal. Le lundi 19 août 2019. Il est 23h. J'arrive sur les lieux. J'ai enfilé mon masque de street artiste sous le pseudo de Waldo. La place Saint-Éloi devient les coulisses avant ma représentation. Premier acte, je vais poser le phare. Je repars, puis reviens. Deuxième acte, je pose ses rayons multicolores. Un jeune homme assis sur les marches lève son pouce pour me féliciter. Juché quelque peu en hauteur, je peaufine l'ouvrage. Les quelques passants passent leur chemin simplement. La pause pourrait se terminer ainsi, discrète et furtive, mais un événement va bousculer ce déroulement. Mais ça, c'est une autre histoire.
Une histoire à retrouver prochainement en vidéo, n'est-ce pas, Waldo ?
Il y a en vidéo.
Non, pardon, je vais beaucoup trop vite. C'est une esquisse d'idée, de projet.
Ah, mais
pour
cool,
le moment,
c'est vrai.
Alors Waldo, donc la voix qui a réalisé ce podcast. Tu es street artiste angevin. Ça consiste en quoi, ce métier?
Eh bien, c'est assez simple. Chez moi, j'assemble des petits carreaux de couleur. Et puis je les mets tous ensemble, et puis je choisis un mur dans la ville, et je vais le soir discrètement, je vais poser cette mosaïque sur le mur.
Mais c'est totalement illégal.
Totalement, oui, c'est de l'art sauvage, parce qu'effectivement tous les murs sont privés, où il y a des restrictions et tout ça, et effectivement
On a Théophile qui vient de te lever un pouce en l'air. Tu aimes bien ce genre d'œuvre?
Bah, moi je soutiens à fond ça, oui.
C'est vrai. Mmh.
Ok, donc par soi-même, sans attendre forcément les autorisations.
Super, on a un soutien. Thierry, tu soutiens également?
Ce que je soutiens, d'abord, j'ai pas vu son phare place Saint-Éloi.
Tu iras le voir?
Donc moi j'aime bien. Ouais, par contre, ouais. Ça m'a donné envie d'y aller, bien sûr. Ouais, bien sûr.
Très bien.
Et puis le type a l'air sympa, donc t'as beaucoup plus envie. Bah, voilà.
Ça va. Bah, t'es rassuré, Waldo, c'est la première diffusion du coup?
Ouais, c'est vrai que j'avais oublié. Je m'étais dit, tiens, enfin, j'avais pas pensé que des gens vrais à côté de moi allaient m'écouter. Donc, je pensais être tranquillement chez moi et que les gens écouteraient tranquillement leur radio. Mais...
Et tu penses que quand tu poses une mosaïque, les gens ne vont pas la voir, peut-être?
Si, là, quand même, j'espère. Si. Je la fais bien en centre-ville et, elle est quand même faite pour être vue, quoi.
Alors, très rapidement, parce qu'on va passer à Émilie ensuite. Du coup, tu proposes aussi des balades, justement, de découverte du street art à Angers.
Eh ben ouais, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, il y a pas mal de street art dans les rues d'Angers, mais il faut avoir l'œil pour ça. J'ai lancé cette balade street art où pendant une heure et demie, on va se balader dans le centre-ville et on va découvrir les différents artistes, leurs techniques de pose, les matériaux, les anecdotes aussi, le soir quand on pose, est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec les gens dans la rue ou autre. Donc il y a plein de choses à raconter, plein d'histoires, c'est une balade vraiment sympa, légère, et je joue aussi avec les gens en les faisant découvrir, deviner où sont, à eux de repérer où sont les prochaines œuvres.
Et c'est super intéressant, surtout qu'à la fin tu nous laisses en suspens avec « Où est Charlie ?».
Oui, parce que j'ai fait une mosaïque à la tête du personnage de Où est Charlie, et cette fois-ci je l'ai bien caché dans la ville et j'ai lancé le défi aux gens en disant à vous de retrouver la mosaïque.
Ouais, je pense que quand t'étais petit garçon, t'allais en bibliothèque pour emprunter des bouquins de Où est Charlie.
Non, je détestais la bibliothèque.
T'as définitivement pas toutes les qualités.
Allez, un petit indice et on passe à Émilie pour retrouver Charlie.
Un petit indice, je les donne pas comme ça, quoi. Mais si vous allez sur mon Instagram, vous pouvez voir, j'ai délimité le secteur et j'ai mis d'ailleurs une page du livre où on peut retrouver qui nous amène à la rue, si vous enquêtez bien.
Super, on est déjà sur le...
Comment on fait pour participer aux balades,
Maud?
C'est une bonne question, c'est vrai ça. C'est soit... par l'office de tourisme, il y a mes dates, soit via Facebook ou Instagram, et j'arrive aussi à apparaître dans le journal. Donc en tout cas, voilà, l'office de tourisme ou alors sur mon Facebook.
On mettra tout ça en lien utile dans le podcast, si tu veux, Maud. Cool. Allez, on va parler philo et rentrée, il me semble, avec Émilie. Oui, Émilie?
Bonsoir Pierre-Benoît, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une deuxième saison de Croque Philo. C'est une rentrée à plus d'un titre, parce que c'est le premier Croque Philo de la saison, mais c'est aussi le premier Croque Philo dans Topette.
Oui, je suis ravie. Je suis ravie de ça.
Donc c'est la rentrée. Et ce que l'on nomme parfois la période de la rentrée, puisqu'elle est passée pour certains depuis déjà quelques semaines, et la rentrée est une notion qui fait couler beaucoup d'encre, et pas seulement celle des écoliers, car plus que jamais, avec nos incertitudes passées, en raison notamment du contexte sanitaire, mais pas seulement, nous nous interrogeons sur ce qui vient, ce qui nous attend pour les mois à venir.
Oui, vas-y, Émilie. Justement, comment la philosophie peut nous accompagner dans cette rentrée?
Mais on trouve déjà dans les médias de multiples entrées qui interrogent philosophiquement le sens à trouver à cette année 2021. Mais effectivement, on peut commencer par observer la rentrée, ce qu'elle est, ce qui s'y passe. Et vous avez sans doute, pour certains, soigné votre tenue au retour des congés d'été, et traîner votre nouvelle trousse. votre nouvelle paire de chaussures de sport. Mais peut-être aussi, vous êtes certainement d'ailleurs nombreux à vous être procuré un agenda. Vous avez sans doute collecté, je l'espère, les programmes de saison 2021-2022 des lieux culturels angevins, dont le Centre Jean Carmé. Tout ça, ce sont des habitudes socialement partagées, des rituels de rentrée, qui sont des marqueurs de temps et du rapport qu'on entretient au temps, la façon dont nous vivons le temps. La rentrée pour les grands et les petits, c'est le retour des activités. Le temps est découpé par les activités que nous planifions et que nous pratiquons. Qu'elles soient professionnelles, sportives, bénévoles, artistiques, culturelles, les activités découpées en jours, en heures, en périodes du calendrier sont des temps programmés d'action et de découverte. Néanmoins, derrière nos résolutions et derrière les projets, il y a une réalité qui n'est pas encore. Une projection d'un futur plus ou moins proche à composer. Et la rentrée, c'est la promesse du temps à venir, notre projection dans une durée qui nous échappe. Car à notre échelle individuelle, la perception du temps est davantage un écoulement qu'une donnée véritablement mesurable. On a bien sûr des calendriers, des horloges, outils fort pratiques pour se donner des rendez-vous, comme par exemple être en direct ensemble sur Radio G. Mais la durée, celle dont parle le philosophe Bergson, c'est le développement d'une vie intérieure, source de notre évolution créatrice.
Alors, le temps, ce serait juste une perception individuelle et la rentrée un simple repère social.
Alors, on ne peut pas nier la dimension de repère social et les particularités qui l'accompagnent, particularités culturelles de la rentrée, qui ne se jouent pas de la même manière et en même temps partout. Selon les contextes, la rentrée est différente. Mais ce que dit Bergson dans l'évolution créatrice en 1907, là où il explore les rapports entre le temps et l'art, c'est qu'on peut voir le temps comme une conscience qui prend des formes créatives, comme des expériences concrètes et uniques. La rentrée serait alors une forme d'appropriation du temps hors des déterminations extérieures, c'est-à-dire propre à soi, que l'on compose soi-même. Donc résumons là le paradoxe. C'est l'heure où on planifie, on organise, on prévoit, on enchaîne les obligations professionnelles, scolaires, sociales, que l'on se réalise le plus librement en tant qu'individu. Pourquoi ? Car le temps devient conscient s'il existe dans et par nos réalisations qui le créent. La rentrée serait alors le meilleur moment pour prendre conscience du temps que nous incarnons nous-mêmes dans nos expériences. Sinon, le temps resterait pour nous une abstraction. Mais il ne l'est pas, car nous en faisons l'épreuve. C'est d'ailleurs à l'épreuve du temps que la rentrée est une période à la fois exaltante et inquiétante. Exaltante devant les nouveautés qui se présentent et inquiétante car devant ce qui prend forme concrète, on peut craindre de ne pas tenir les rythmes effrénés, on peut craindre la fatigue, de courir contre la montre, d'éprouver des difficultés à gérer l'emploi du temps prévu. D'où sans doute l'intérêt à relativiser nos obligations temporelles, en prenant conscience que nous en sommes à l'origine. Pas seulement socialement, par nos obligations professionnelles par exemple, mais aussi, fondamentalement, prendre conscience que le temps n'existe pas concrètement sans les expériences que nous y développons. Parce que la rentrée est souvent synonyme de contraintes au travail, à l'école, mais aussi d'aspirations personnelles, elle représente un espace-temps à part, fait de promesses, d'envie, de craintes. On peut dire d'elle aussi qu'elle est en quelque sorte un retour vers le futur.
Mais pourquoi un retour ? La rentrée s'annonce ce qui va venir, c'est pas ce qui est encore réalisé, non ?
Alors
c'est ce qui n'est pas encore réalisé.
Effectivement, oui, Pierre-Benoît, elle est riche de réalisations programmées, projetées, mais il y a aussi dans la rentrée l'idée d'une reprise, d'un arrêt. Et entre retrouver nos habitudes et entamer de nouvelles activités, il y a une tentative d'ordonner le réel du temps. Entre le passé qui n'est plus, le futur qui n'est pas encore. On dit souvent que la rentrée illustre un mouvement. Elle est d'ailleurs une non-passivité face au réel, comme si le temps était un flux désordonné et que la pensée y mettait de l'ordre. Et la rentrée, c'est le moment de l'année où on fait preuve de volonté, on active la pensée, on s'active pour donner de l'ordre au chaos qui nous entoure. tout est possible à la rentrée, puisque ce que l'on y planifie n'est pas encore venu au réalisé. Donc je vous propose de faire votre rentrée en philosophe, c'est-à-dire pas seulement en pensée, mais en acte, en retrouvant avec la rentrée les couleurs déjà douces et atténuées de l'automne, et retrouvant vos habitudes, donner à la rentrée le temps, le prendre ce temps, en ayant recours aux repères qui sont les vôtres et qui vous rassurent, en planifiant les spectacles que vous irez voir à cette saison pour continuer à prendre le temps et à rêver. Et c'est le moment de vous faire artisan du temps et de donner un peu de corps aux dates du calendrier.
Ce qui est très paradoxal, puisque du coup, le temps, on en parle et on y est un petit peu pressé. Merci beaucoup, Émilie. Donc, podcast à retrouver sur le site de Radio G. Merci beaucoup à Théophile d'être passé. Merci à Thierry. Merci à Waldo. Merci à Marie. Merci à Maud. Alors, des spectacles très intéressants. Je vais essayer de faire rapidement. Jeudi, Gris Cornac. Vendredi, Théophile. Vendredi 1er octobre ou samedi 1er octobre, Maud. Merci beaucoup. Et topette.
101.5 FM.
Peut-on être sans avoir été ? Telle est la question que nous allons nous poser ce soir dans cette émission. Bienvenue dans le deuxième CMA. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de CMA, c'était mieux après, où on le revient sur les origines des choses. Et pour remonter, et pour remonter les fils créatifs, nous avons des détricoteurs professionnels qui, vous allez voir, ont une palette de sujets des plus éclectiques. Alors si vous êtes curieux de savoir pourquoi les choses sont comme ça aujourd'hui, voici le sommaire de la première partie de CMA. Alors, donc, rien n'arrête notre premier chroniqueur ce soir, même pas les murs. Bonsoir Florian.
Bonsoir.
De quoi nous parles-tu ?
Ah, quelle délicate saveur que celle de la mûre ! Au gré des chemins ou sur les étals des supermarchés, je vous emmène à la découverte du plus populaire des fruits des bois. Nous allons ensemble décortiquer la mûre. Suivez-moi dans cette aventure botanico-culino-géographique.
Ouais, énorme. Ça donne envie. Hein. Ouais. On en parle de plus en plus, mais ses origines sont lointaines. Tu nous tiendras au courant de quoi, Jérémy ?
Eh ben, de la voiture électrique. Oh. Bon, après, si tu fais les blagues que je veux faire avant que je les fasse,
ah, merde.
Je
vais y arriver, Bruno. Ah oui,
donc,
d'accord.
Comme ça, vous serez au courant de l'origine de la voiture électrique.
Ah oui ! Oh là là, ben oui, on a fait la même école à Vannes. Bon, alors après ta chronique, Jérémy, on découvrira le Graal qui répond aux questions des auditeurs. Aujourd'hui, c'est une histoire de poules et d'œufs. Mais ensuite, ça va rouler avec Mathias. Il a planché pour nous présenter les origines d'un jeu qui ne se démode pas. N'est-ce pas, Mathias ?
Oui, ce soir, je vous roulerai des pattes.
Ah d'accord.
Voilà.
On a dit qu'il fallait des introductions qui nous donnent envie. Voilà. Donc c'est censé nous donner envie.
Voilà.
Direct. Ok. Il sera alors temps de parler musique avec Sonia qui reviendra cette saison sur les origines des histoires et les histoires des chansons. Bonsoir Sonia, heureux de te retrouver dans CMA.
Moi également.
De quoi on parle ce soir ?
Alors bien, ce soir on va retracer l'histoire incroyable d'un chant qui est connu mondialement, un rythme italien qui reste en tête dès qu'on l'entend. Si je vous dis. J'en dis pas plus.
D'accord, bon, on verra ça. Voilà pour le sommaire de cette première partie. Vous verrez qu'ensuite il sera question de frigo, de maman, de toile de Jouy. Mais commençons par nos premiers sujets dans CMA. Alors Florian, citons le grand poète Patrick Bruel. Combien de murs ? Je pose ça là, hein, tu te démerdes.
Bravo Bruno. Alors pour commencer, on va tout de suite évacuer une question essentielle que tout le monde se pose, j'en suis sûr, c'est comment savoir si la mûre est mûre ? Alors ouais. À votre avis ?
Si elle est bien noire.
Ok.
Faut la goûter.
Super, ça c'est risqué. Hein.
Si elle n'est pas bonne, elle est pas mûre.
Ouais. Ah. Effectivement, la mûre est consommable à partir du moment où elle est noire. Et oui, donc évitez toutes les vertes. Toutes les roses, hein, c'est pas des framboises non plus. Même si la mûre appartient à la même famille de plantes que le framboisier.
D'accord.
Voilà, bah d'ailleurs, on voit bien, la forme du fruit est le même. Alors, je vais vous faire un petit peu l'origine de la mûre.
Oui, parce que c'est un peu le thème de l'émission quand même.
Donc, dans les temps très anciens, les Grecs pensaient que la mûre était issue du sang des titans versé lors de leur lutte contre les dieux de l'Olympe.
Ah, ils allaient sans sombre. Hein.
Et ça s'est répandu sur Terre, comme ça, voilà, avec les...
Ils étaient poètes.
Eh oui. Ensuite, chez les Romains, il y a Pline, donc c'est le célèbre écrivain latin, qui affirmait même que ce fruit combattait le venin des serpents les plus dangereux.
Mais ils étaient un peu cons, quoi.
Ah ouais.
Bon,
pas sûr.
Faut pas s'emporter non plus, hein, parce que ça pousse très modestement sur des lianes épineuses dans les buissons. Voilà. En fait, c'est une ronce.
Ouais, modestement, non, ça pousse bien.
Non, ça pousse bien, mais c'est un fruit assez modeste, quand même.
Ah, il est petit, oui.
Bah, il est petit, mais pas cher, puisqu'on le cueille gratuitement.
Oui.
Voilà. bon, c'est pas non plus le fruit du siècle. Hein. Mais je dois dire quand même que ça a son petit charme de les trouver. Ça a son petit charme de les trouver sur le chemin et de les cueillir, en évitant bien sûr les épines et les barbelés, puisque souvent on les trouve aussi avec les barbelés.
Ah oui, dans au bord des champs.
Là où ça va.
Et les punaises.
D'accord.
Et les punaises.
Ah, et les punaises aussi dessus, ouais. D'autres. Je sais pas où tu veux en venir avec ta chronique, mais vas-y, vas-y.
Non, mais vous inquiétez pas, il y aura une chute à la fin.
Alors, ah, d'accord. Ok, on se prépare.
Deuxième question essentielle. Pourquoi la mûre s'appelle la mûre?
Ah.
Parce oui. qu'elle est mûre.
D'accord.
Parce qu'elle est mûre. Pourquoi parce qu'elle est mûre. Elle est le long des murs.
Les titans et les serpents, non?
Je sais pas.
Alors ça n'a rien à voir avec les titans ni les serpents.
Ça vient de Saumur.
Ça a peut-être à voir un petit peu avec les vers à soie.
Ah bon?
Eh bien figurez-vous qu'elle s'appelle comme ça tout simplement par analogie au fruit de l'arbre, le mûrier.
D'accord.
Vous savez ce que mangent les vers à soie? Ils mangent du mûrier.
Ouais.
Ils mangent des feuilles de mûrier. Donc le mûrier c'est un arbre et le mûrier fait des fruits qui s'appellent une mûre aussi, mais c'est la mûre du mûrier. Et elle ressemble parfaitement